Bonjour à toutes et à tous. Je me présente François Coulombe-Roson, étudiant au baccalauréat en théâtre. Le balado de Levé de Rideau se trouve en marge de la 10e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval. Ce festival se veut une plateforme de diffusion, d'expérimentation, d'apprentissage et de partage de la création artistique. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook dans la description afin de découvrir notre merveilleux projet. Ce balado répond à notre besoin de comprendre les rouages de la machine théâtrale au Québec. Pour y parvenir, nous voulons interroger les acteurs du milieu pour qu'ils nous offrent leur vision et leurs outils afin de mieux comprendre l'écosystème artistique à Québec. Dans ce troisième épisode, on s'intéresse au théâtre documentaire d'Alexandre Fecteau. Nous aimerions approfondir le processus de création qui répond aux questions vives de société. De plus, nous nous intéressons à sa compagnie Nous sommes ici et les œuvres qui en découlent. Bon épisode. Je suis en présence d'Alexandre Fecteau. Il est un metteur en scène qui est originaire de la Beauce. Il a été formé à l'Université du Québec à Chicoutimi en art interdisciplinaire. Il va ensuite poursuivre une maîtrise à l'Université Laval en littérature et en art de la scène et de l'écran. De là va naître le projet Changing Room, on va en parler un petit peu plus tard. Et en parallèle, tu vas fonder le collectif Nous sommes ici. Il va assurer la direction artistique de Changing Room, le No Show, Hôtel Dieu, puis plus récemment, la mise en scène de Tout Inclus, et N'essuie jamais de larmes sans gants. Et tu vas faire aussi la mise en scène de Rhinocéros, Amadeus et Amadeus au Théâtre Le Trident, Les filles ont soif et À toi pour toujours, Tamarilou, au Théâtre de la Bordée. Est-ce qu'il manque des spectacles que je n'ai pas mentionnés ou...
Ben, dans les Singulière, qu'on a...
Singulière.
C'est une autre de nos créations documentaires qu'on a faites à la Bordée. Puis avant Changing Room, il y avait eu L'Étape, puis le No Show, qui a été un gros truc.
Oui.
Ouais.
Ça, c'est...
Puis, une mise en scène à Montréal, petit cirque, puis où tu vas quand tu dors en marchant, puis... Ouais.
Fait que j'aime ça commencer un peu avec le début, là, la genèse, ouais. Un peu. Fait que en jeune âge, ça a été quoi un peu t'as-tu une création ou une piqûre que t'as eue, que ça a été quoi ton départ vers le monde du théâtre?
C'est bien... Tu sais, moi, j'ai pas vu beaucoup de théâtre enfant. J'ai comme eu deux moments un peu marquants. Il y a une grosse partie, ça s'est passé par ma mère qui va voir le fantôme de l'opéra, la tournée à Montréal. Et qui m'en parle au point où je veux monter le fantôme de l'opéra dans mon école primaire.
Ouais.
Fait que... Mais tu sais, j'étais beaucoup dans les tu sais, c'est un spectacle à effets spéciaux, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qui me parlait à ce moment-là, là, tu sais. Le feu, la glace sèche.
Un peu moins dans le texte, plus dans...
Les effets scéniques, ouais, c'est ça. Ensuite de ça, il y a eu la... 93, donc là, j'ai 11-12 ans, centenaire de mon village.
Oh.
Ils font une pièce sur l'histoire du village. J'assiste à la première. Je suis flabbergasté. Je ne sais pas trop. Je suis transformé. Je sais pas Et là, et ne connaissant vraiment pas le théâtre, ça jouait une deuxième fois. J'aurais voulu embarquer dans la deuxième. C'est comme ma grande naïveté de...
Oui, je peux monter moi aussi, je veux être là.
Oui, je veux faire partie de... Tu sais, je pense que c'est surtout ça. C'est pas comme... Il n'y a pas de pensée pratique de ça se peut-tu, ça se peut-tu pas. Tu sais, juste comme un élan, là, tu sais. Fait que malheureusement, ça se pouvait pas.
Au moins, tu t'as voulu.
Oui.
Mais comme tu l'as adressé, le terme de vouloir faire partie de...
Oui.
C'est ça, l'intention qui est intéressante. Là.
Oui, 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 vraiment. Puis après ça, je pense que j'ai été bien nourri, là, tu sais, Cirque du Soleil, là, tu sais, mettons.
Oui.
Tu sais, on n'est pas dans le théâtre nécessairement, mais dans la théâtralité, là.
Oui, vraiment, il y a un volet spectaculaire
c'est ça. C'est fait explosif. Que là, moi, tu sais, Saltimbanco, Allegria, Kidam, c'est des spectacles des années 90, là. Tu sais, je veux dire, j'avais les posters dans ma chambre, tout ça, c'était. Puis ça reste une influence. Et même si ce que je fais n'a aucun rapport, vraiment, c'est tellement marquant. C'est tellement une esthétique forte. Puis après, puis d'avoir connu ça enfant, savoir ça vient du Québec, alors que ça rayonne partout dans le monde. Tu sais, c'est comme une affaire. C'est comme un peu hallucinant. Là.
Ben, c'est
ça
reste...
comme Céline Dion. Là. C'est comme,
ça reste dans la mémoire collective, mais ça aussi, ça s'ancre dans l'imaginaire.
Ben
ça,
oui.
Ça, comment je dirais, tu te nourris de ça, puis des fois même, tu en fais des rêves. Tu dis que tu as les posters.
Oui.
C'est sûr que tu as dû rêver de temps en temps.
Oui, puis c'était tout. C'était la... sais, c'était la musique, c'était les programmes souvenirs que j'ai regardé je sais pas combien de fois. Après ça, les captations qui sortaient, la merch. Tu sais, c'était comme... C'était voulu de même, là, mais tu sais... Mais c'était assez fort pour porter tout ça, là, tu sais.
Ouais.
Fait que je sais que ça m'a habité longtemps. Puis c'est comme si ça ressort récemment, mais je l'avais comme oublié un peu. Parce ouais. qu'après ça, quand tu te mets à étudier... C'est pas ça que t'étudies, là, tu sais, tu tombes...
Non.
Tu découvres l'histoire du théâtre, t'es pas là-dedans, mais... Et pourtant, tu sais, je veux dire, c'est...
Ça en fait partie.
Ça en fait... C'est surtout ici, en tout cas, là, tu sais.
Oui, mais ben, c'est... Ouais, c'est peut-être une affaire qui est plus récente, là. Comme tu dis, l'histoire du théâtre, c'est... Comment je dirais? Ben, ce qui est plus récent est tellement, comme, à vif, que des fois, c'est peut-être difficile d'en faire un portrait, tu sais. On va souvent nommer les classiques, mais parfois, de revenir à ce qui est proche de nous, c'est...
Ben oui, puis tu sais, c'est pas si vieux, puis aussi c'est commercial, c'est sûr, là, mais tu sais, en même temps, c'est comme dans le commercial, dans ce que ça a de meilleur, là, dans le sens que ça fait des choses que il pourrait pas se faire autrement qu'avec énormément de budget, puis tu sais. Fait que, en tout cas, tu sais, je veux dire, ça... Fait qu'il y a ça, puis ensuite, ben, mais ça a quand même pris du temps, j'ai pas fait de théâtre, tu sais, j'ai pas fait de théâtre secondaire, à part la pièce en anglais, là, tu sais, en quatrième secondaire.
Oui,
j'ai remplacé le premier rôle à la fin parce qu'il y a quelqu'un qui était bien angoissé.
C'est comme, ah, je vais le faire, c'est pas grave. Mais ça n'a pas été un souvenir que t'es comme...
Mais après... Mais en même temps, ça a été intéressant. Mais surtout qu'après le secondaire, avant d'entrer au cégep, moi, j'ai fait un échange d'un an aux États-Unis.
Ouais.
Puis là, je me suis retrouvé dans... Fait que là, j'étais comme en... Tu sais, moi, j'avais déjà mon diplôme, là, tu sais.
Mm-hmm. Ouais,
fait que j'étais comme en 12e année.
Fait que t'avais comme une année de, hey, je m'en vais là-bas, puis je... ce qui me tente,
un peu, oui.
Qui vole.
Fait que là,
OK.
Fait que là, tu sais, aucune pression dans les cours, tout ça. Et là, tu sais, un parascolaire, là, de fou, là. Tu sais, comme, tu sais, l'école finit à 2 heures, puis de 2 à 5, si t'es un peu motivé dans la vie...
Tu t'en vas te promener.
Tu t'en vas faire, tu sais, soit de l'art, du sport, tu sais.
Ouais.
Fait que là, là-bas, on montait une pièce par mois, à peu près.
Une pièce par mois?
Ben, tu sais, les Anglais, ils répètent en 3 semaines. Là, donc là c'était le même modèle. C'est un... ben, peut-être, mais
il y avait un gros rythme, là.
Ça y allait, là. Fait que là, moi, j'ai embarqué là-dedans. Encore une fois, tu sais, je me présente, je manque les auditions. Je me présente au callback, là. Puis, tu sais, sachant pas exactement c'était quoi un callback, là. Puis là, tu sais, genre, pas plus expérimenté qu'il faut. Puis un accent à casser au couteau, là, tu sais.
Qui vient de la bosse.
J'obtiens un rôle, là. Tu sais, je suis l'inspecteur des impôts, là. Dans, c'est une comédie, là. Tu sais, une comédie de Broadway. Tu sais, une affaire qui peut se monter en 3 semaines, là.
Ouais.
Tu sais, comme...
C'est assez... Pas dire simple, mais comme...
Ben, t'as pas à te casser le bessic tant que ça, là. Tu sais, comme... Tu rentres là, tu sors là, tu sais. Je veux dire... Je veux pas dénigrer, mais dans le sens, ça peut être simple.
Oui, ben, surtout dans un contexte scolaire ça se fait, là.
C'est ça. Et là, ben, ça m'embarque là-dedans. Et là, toute l'année, je ne fais que ça. Là, il y en avait un, il faisait son projet de fin d'études. Il montait Mère Courage de Brecht. Fait que là, je découvre Brecht là-bas, tu sais. Fait que c'est pas juste fait du Broadway, là, tu sais. Une création, tu sais, fait que ça devient vraiment stimulant. C'est aussi un rythme... vraiment soutenu. Puis là, j'ai fait, OK, ouais, c'est... Là, ça m'a vraiment donné le goût. Puis j'ai fait un peu de... Un petit exercice de mise en scène.
Ouais.
Puis là, j'ai fait, ah ouais, ça, j'aime ça. Là. Puis là, ce qui me fascinait, c'était de faire des versions différentes d'une même affaire. Mm. C'était comme l'affaire de même texte. Je pense que j'avais monté trois fois le même genre de 5 minutes.
Avec des angles complètement différents. Ouais. Mais puis c'est vraiment intéressant, ça, dans la création de réaliser qu'il y a une façon, tu sais, tu vas voir un spectacle, c'est une façon qui a été présentée, mais de réaliser qu'il y a, genre, il y a mille et une autre façon de le décliner.
Fait que l'étincelle vient vraiment de là. Fait que là, après ça, je rentre au cégep, je vais à Sainte-Foy. Là, j'apprends qu'on monte une seule prod par année. Là, je pogne de quoi. Là, je trouve ça mollo. Là, je fais, ah, ça va être tranquille, là, tu sais. Fait que ça, c'est la première année, c'est ça. Mais deuxième année de cégep, déjà, ça devient un peu plus fou parce que je fais 3 prods finalement. Parce qu'il y avait comme les prods officiels, il y avait une prod étudiante, puis je jouais dans une production à part, là, une compagnie semi-amateur là, qui montait une adaptation de Peter Pan à Lévis. Là,
t'as juste demandé où c'est apparu?
Non, ben, j'ai vu ça passer, puis je me suis retrouvé à auditionner là-dedans, puis j'ai fait ça.
OK.
J'aimais la comédie musicale à ce moment-là. Mmh. Fait que là,
ça a comme embarqué.
Oui, oui. Fait que Fait que là c'était bien stimulant. Là,
fait que il y a comme eu un intérêt pendant un moment pour le jeu, d'une certaine manière, ben, le d'être
ben, tu sais, c'est la porte d'entrée, là. J'aimais quand même ça à l'époque, mais je voyais bien que j'avais pas la même aisance que d'autres, là, mm-hmm.
Oui, oui, ça arrive.
Tu sais, fait que je me faisais pas trop d'accroire par rapport à ça.
Ouais, tu étais lucide par rapport à
ouais,
peut-être
oui.
C'était quoi plus ton chemin.
Ben oui.
Okay.
Ben, puis c'était mes intérêts aussi, c'était pas juste une affaire de capacité, là.
Ouais, oui.
C'est pas le même trip, là.
Non, 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 c'est vrai que...
Mais j'avais pas vécu beaucoup le trip de la mise en scène, c'est ça l'affaire. Fait tu sais, je savais que ça m'intéressait, mais je l'avais pas fait, tu sais.
Mmh. Puis as-tu, pendant justement, peut-être, je sais pas si c'est au cégep ou à l'université, où ce que ça a fait, ça a été quoi le déclic vers la mise en scène que t'as fait?
Je savais que c'est ça que je voulais faire. Je savais que je voulais faire du théâtre.
Ou peut-être, est-ce que c'est une personne?
Ben, c'est ça, j'allais... Ouais. C'est sûr que, mettons, à la même époque, découvrir Wajdi Mouawad, le metteur en scène.
Oui.
Je veux préciser.
Oui.
Parce que c'est pas la même... On dirait que c'est pas la même personne, des fois.
C'est deux personnes différentes.
Ben... Comment... Je suis beaucoup plus fan du metteur en scène que de l'auteur, en tout cas. Moi, okay. Personnellement.
Ah!
Donc, en 2002, il avait fait une mise en scène des Trois Sœurs au Trident, qui a été reprise quelques fois, qui était hallucinante, que j'ai vu 3, 4, 5 fois, je ne sais plus trop. Là,
c'était, oui, c'était
grand. C'était vraiment marquant. Ben, tu sais, c'était surtout pour quelqu'un qui a le goût de faire de la mise en scène, parce que tu sais, c'était pas de la mise en scène subtile. C'était de la mise en scène qui se mettait de l'avant. Puis, tu sais, pour tout le monde, ça se mettait devant le texte, puis je peux comprendre. Tu sais, peut-être que ça m'énerverait aujourd'hui, mm-hmm. Mais à 20 ans, je regardais ça et j'étais là, waouh, de la mise en scène, ça peut être aussi marquant que ça. Ça peut influencer à ce point-là notre lecture du texte, notre expérience de spectateur, tu sais.
Mais parce que, d'une certaine façon, Tchekhov s'inscrit un peu dans un courant qui comment je dirais, un peu plus dans du naturalisme, puis à un moment donné, ça va vers le symbolisme. Fait que j'imagine que d'avoir une aussi grande scène que comment je dirais, que le grand théâtre, que, OK, j'ai un petit objet, mais ça veut tout dire dans cet objet-là, comme où j'ai une grande salle, puis...
Mais c'était pas subtil, là. Okay, C'était gros, là, tu sais... un personnage qui pogne un marteau, puis pendant qu'un autre personnage parlait, venait proche, lui, on voyait qu'elle avait le goût de la frapper, mais en même temps, c'était comme si c'était complètement inconscient, puis que dans le niveau de l'action. Ça existait comme dans la situation.
Ouais.
Ça faisait pas partie de la situation. Il y avait un truc avec les téléphones cellulaires qui était assez marquant. C'est le début des téléphones cellulaires, là, tu sais, de la démocratisation du cellulaire.
Est-ce que c'est le fameux qu'il y a quelqu'un qui reçoit un appel dans le plein milieu d'un spectacle?
Oui, c'est ça. Benoît Gouin. Là, ça sonne, la personne ne fait rien. Benoît Gouin s'arrête, regarde le public et fait « ben, prenez-le ». La spectatrice répond, puis elle lui dit « c'est pour vous ». Puis là, va lui porter le téléphone, puis là...
Oh mon Dieu!
Ouais, c'était fantastique!
Est-ce qu'ils l'ont fait une fois ou ils l'ont fait à chaque représentation?
À chaque représentation, ben oui.
Tain, on va leur apprendre comment ça marche, ferme-le ton sel.
Oui, mais c'est aussi que c'était plus brillant que... C'était pas seulement l'affaire de cellulaire, c'était aussi la récupération. Puis dans l'intrigue, ça marchait, parce que là, après le personnage de Benoît Gouin, j'oublie son nom, là, celui qui est tout le temps en train de traîner chez les sœurs, mais qui a une femme... qui n'a pas l'air d'aimer, là, tu sais. Ben, il fallait qu'ils rentrent chez eux, là, tu sais. Ça marchait au bout, là, tu sais. Après ça, des numéros musicaux complètement décalés, là. T'es OK, t'es Batine, de Taouane, tu sais, en danse en ligne. Tu sais, c'était foisonnant, tu sais.
Fait que toi, c'est de voir ça...
C'est tellement de liberté, là, tu sais. Tellement d'audace, tellement de permission, tu sais.
Ouais.
C'était-tu
quelque chose qui était moins... pas moins visible, mais est-ce que, en particulier, cette personne-là, tu dirais qu'en voyant cette permission-là versus d'autres, c'est là que tu as fait « OK, le théâtre peut se libérer de ses codes. »
Oui. Ben, tu sais, dans une façon aussi de faire exister les classiques aussi, là. Tu sais, parce qu'après ça, moi, je le trouve, tu sais, je veux dire, Incendie, tu sais, la création, c'était fou aussi, là, tu sais. Puis là, c'était l'auteur et le metteur en scène à leur meilleur, là, tu sais. La mise en scène était extraordinaire, là, tu sais, les parallèles qu'ils faisaient, les ponts, c'était fabuleux. Mais dans son travail de classique, puis moi, j'avais beaucoup entendu parler d'une pièce qu'il avait faite avant à Québec, une pièce grecque. Là. Bon, ça ne me revient pas, je ne l'ai pas vue de toute façon. C'était très, très... ça avait énormément marqué les gens. Tout le monde avec qui je rentrais au cégep me parlait de ça. Il a fait Don Juan à Montréal. Tu sais, dans le sens qu'il brassait les... Ouais. Puis il était jeune, là, il avait 30 ans, là, tu sais.
Oui.
Fait que c'est quand même un élément important, mais en même temps, j'étais très, très, très admiratif de Gilles Champagne, qui travaillait avec Jean Hazel, le scénographe, et qui faisait des choses ensemble, tant au Périscope, là, avec le Théâtre Blanc, qu'avec Coutridan. Des choses c'est quoi, tellement belles.
Une des choses qui ont fait qui t'a marqué.
Ben, À toi pour toujours, ta Marie-Lou, là, qui ont au Trident, je pense en 2002 aussi, ou 2003. Mais, et là, tu sais, le plateau était rempli d'eau. Tu sais, fait que ça m'a quand même marqué. Mais ça m'a aussi beaucoup feinté quand je me suis retrouvé à monter à toi pour toujours, ta Marie-Lou, parce que je me disais, tellement été marqué par ça, je peux pas... Fallait que je me détache de ça.
Oui, c'était comme un défi, dans le fond.
C'est ça. Fait que là, Gilles, lui, disait, ben c'est la métaphore de la marde. L'eau, c'est la marde dans laquelle ils sont pognés, tu sais. Fait que là, ça marchait tellement bien, tellement bien. Puis après ça... mais tu sais, ils ont fait des choses aussi. Hein, Marie Tudor, tu sais, tellement, tellement, tellement de belles choses. Puis, j'ai dit Marie Tudor, je pense que je me trompe de nom. En tout cas, Lorraine Côté brillait là-dedans, c'était fantastique. Puis après ça, quand je me suis retrouvé à monter à toi pour toujours dans Marie-Lou, ben là, moi, je voulais que je me rattache à autre chose. Puis là, j'étais dans la machine, tout ça, puis ça m'a comme donné une autre porte d'entrée pour créer d'autres images, tu sais, vraiment, vraiment différentes. Là. Fait que ça aussi, c'était une influence assez importante. Mais tu sais, j'étais déjà comme en train de... À ce moment-là, je savais où je voulais... C'est ça, il y avait comme une intuition assez forte que je voulais faire de la mise en scène, même si j'en avais pas fait encore. Oui. Mais ça s'est confirmé. J'ai fait ma première mise en scène à la Troupe des 13. J'ai adapté Kamouraska de Anne Hébert. Puis...
En quelle année?
2003.
En 2003, pendant la Troupe des 13.
Oui. Fait que ça, pour moi, c'est ma première mise en scène. Mm-hmm. Tu sais? Fait que j'adorais l'univers d'Anne Hébert. Puis très influencé par Watch Dis-moi What, fait beaucoup de permissions, beaucoup de distanciation à quelque part, puis un gros fun, gros fun. Ouais.
Nice.
Ouais.
Wow. Admettons, c'était quoi les enjeux, peut-être financiers au niveau du théâtre? Je ne sais pas si c'est les mêmes enjeux aujourd'hui. Mm. Est-ce que, en termes de financement, tu trouvais que tu fais quand même avoir la même permission ou est-ce que les enjeux affectaient peut-être, les enjeux monétaires affectaient la façon que tu produisais? Ça faisait-tu des décisions pour toi, tu sais?
Ben, c'est difficile en ce moment. C'est difficile de comparer. C'est difficile pour moi de me positionner par rapport à est-ce que c'est différent maintenant. Je pense que c'est encore difficile. Ça l'était à l'époque, là, tu sais, pour des compagnies émergentes. Nous, on avait été quand même bien soutenus dans les débuts. C'est sûr, tu sais, moi, je suis arrivé... J'ai fait mes premières expériences professionnelles en 2008. En même temps, la ville créait Première Ovation. C'était les chantiers se créaient en même temps. C'était vraiment comme un beau timing, là, tu sais.
Ouais.
Tu sais, c'est là qu'on a découvert le côté plus cool de Régis Sabaume, là, qu'on soupçonnait pas.
On ne savait pas à l'époque que ça allait avoir un intérêt pour la culture.
Non, c'est ça.
Wow.
Mais sauf qu'on savait pas qu'il y avait... C'est parce qu'on savait pas qu'il avait déjà voulu être acteur, là, tu sais. Fait que c'est ça, là. Oui, c'est ça. Fait que Première Ovation, en tout cas, moi, je sais que ça a donné une bouffée d'air aux gens de mon âge, là. Oui, c'est ça. Ça a facilité beaucoup de choses. Les chantiers, ça a créé une nouvelle plateforme. Oui. Puis, tu sais, c'est encore là. C'est des choses qui restent, qui demeurent. C'est des acquis. Fait que là... Il n'y a peut-être pas grand-chose qui s'est ajouté, mais tu sais, ça reste qu'avant, ça n'existait pas. Fait que c'est quand même...
Il y a des tremplins, dans le fond, qui ont vu le jour quand tu étais en train de...
quand moi, je débutais, là. Ouais. Après, ça n'a pas toujours été facile, puis c'est pas pour rien qu'on a fait le no-show. Tu sais, le no-show, ça partait directement des difficultés à financer, mais Mais même, tu sais, des difficultés à faire le travail, là. Tu sais, la première idée du no-show, pour moi, c'est... On est dans les loges, au drag, parce qu'on répétait sur place, parce que le tout premier labo l'a fait sur place, là, au drag. Puis là, il me manquait deux acteurs sur quatre. Puis là, la première idée du... Parce qu'il travaillait. Tu sais, genre, il y avait des jobs alimentaires. Il pouvait pas...
J'étais en resto à soir, j'ai un chiffre où je peux pas, genre...
Puis là, ben, mon idée, c'était... La première idée du no-show, c'est... Ben, les acteurs, ils sont tellement obligés de travailler ailleurs qu'ils sont pas disponibles pour venir jouer le spectacle. Tu sais, comme, on fait la première, puis...
Ça va être ça.
Ils sont pas là. Mais ils vont essayer de suivre à distance, puis de donner leur réplique, tu sais...
Au téléphone?
Au téléphone. Je sais pas. Mais c'était comme l'absurdité d'essayer de faire du théâtre sans avoir... le temps de le faire, là, tu sais, comme...
C'est intéressant comme prévu.
Fait, ouais, c'est devenu un peu autre chose, mais ça part du même constat de genre, on peut-tu comme avoir les moyens de faire ce qu'on est censé faire de mieux, puis, tu sais, fait que là, c'est devenu vraiment sur l'art et l'argent, tout ça, le financement, puis tout, mais c'est vraiment parti de... C'est comme ma façon d'en rire, là, tu sais.
Un genre d'exutoire de
comme, ben
oui. C'est ce que c'est, puis...
Tu sais, je vous en veux pas personnellement, mais, tu sais, de pas être dispo, mais c'est tellement chiant. Tu sais, on peut-tu juste le faire, là, tu sais, fait que, c'est ça. Fait que oui, il y avait des enjeux financiers quand même, là, tu sais. Puis, tu sais, je repense à ça, tu sais, Changing Room, le premier labo, je pense qu'on avait un budget de 8 000 $. J'appelle une scénographe, j'ai dit j'ai 400 $, c'est pour les costumes, c'est des costumes de drag queen. Elle fait, tu sais, genre, excuse-moi, ça prendrait peut-être 14 000, mais pas 400, là, tu sais, comme. Après ça, c'est arrangé parce que, tu sais, il y a comme. On s'est fait prêter plein de choses par Réglisse, qui était la genre de drag queen maison à l'époque, là. Puis heureusement, sinon il aurait été habillé n'importe comment. Là,
ça aurait pas été une vraie drag queen.
Tu sais, elle me disait, la Virginie Leclerc, elle me disait, ben là, tu sais, 400 $, acheter une paire de chaussures, là. Tu sais, je veux dire, on est mal pris, là.
ça va pas bien.
Ouais.
Ensuite, ben, quand t'es rentré, quand tu t'es arrivé à Chicoutimi, comment ça s'est passé là-bas? C'était comment, en termes de programme, qu'est-ce que tu cherchais?
Tant qu'à moi, c'était fantastique. Ouais, pour moi, c'était fantastique, là. Tu sais, c'était... Moi, je trouve que c'était un programme qui était parfait pour quelqu'un qui savait ce qu'il voulait en faire. Comme, mettons, moi, je savais que je voulais faire de la mise en scène. Parce que, tu sais, ça s'appelle le bac interdisciplinaire en art. Fait que là, il y a comme un tronc commun qui fait beaucoup de place à la performance, tout ça.
Ouais.
Après ça, il y a... Tu sais, à l'interdisciplinarité en tant que telle, puis après ça, il y a comme ta discipline principale, puis après ça, tu vas piger dans les autres disciplines artistiques. Tu sais, cinéma vidéo, peinture, sculpture, design...
Fait que vraiment, ton créneau à toi, tu le remplis, puis tu vas chercher ce que tu as besoin.
C'est ça. Okay. Là, après ça, pour quelqu'un, mettons, qui sort directement du cégep, qui n'a pas de plan encore, puis qui ne sait pas où aller, puis qui... C'est une belle place pour se perdre aussi.
OK, en même temps.
Oui, c'est ça. Fait que j'ai vu plein de monde qui ont commencé le bac plus jeune que moi, que finalement, ils ont fait une autre formation après, parce que ben, c'est très le fun, là. Mais tu peux ressortir de là avec... très spécialisé.
Oui, c'est encore un peu nébuleux. Puis même toi, ton idée de ce que
Tu l'as en partant, c'est vraiment super. Puis, tu sais, je pense que ça marchait bien avec comme... C'est une approche positive, tu sais. C'est-à-dire que le tout premier cours que j'ai eu, tu sais, premier lundi matin, 8h ou 8h30, je ne me souviens plus, là, Denis Tremblay, qui était notre prof de fonction de l'art et de l'artiste, puis Denis Tremblay, c'est le roi de Lens, là. Vous irez voir ça, c'est assez funky. Il est devenu roi de Lens Saint-Jean, là. C'est une royauté municipale qui a comme eu des échos jusque dans la monarchie britannique, parce que tout à coup, les citoyens de Lens-Saint-Jean n'étaient plus des sujets britanniques parce qu'ils devenaient des sujets du roi de Lens.
Hein?
Fait que ça, c'est genre... mais c'est une performance artistique.
Oui.
C'est ça. Parce que lui, il était l'illustre inconnu qui est devenu le roi de Lens. Puis ça a mal tourné, mais...
mais c'est drôle de dire qu'à un moment...
Mais c'est extraordinaire que lui ait porté ses manœuvres artistiques jusque-là, tu sais. Fait que lui, ce gars-là nous dit, ben là, nous, à partir d'aujourd'hui, on vous considère comme des artistes. Mettez le chapeau, assumez-le. Puis, tu sais, on entend souvent, tu sais, dans les programmes pas contingentés, il y a comme souvent une idée de filtre, là, tu sais, puis, tu sais, comme de, un élagage qui va se faire à la longue, puis... Puis souvent, je pense maladroitement, on pense que ça veut dire qu'il faut être dur avec les gens pour que ceux qui sont peut-être pas à la bonne place le comprennent et s'en aillent.
Mais à l'inverse, toi,
mais à l'inverse, moi, je pense qu'à Chicoutimi, de le prendre de façon très positive, de faire comme... Au lieu de dire « prouve-moi que tu es un artiste », il disait « je te considère comme un artiste. Maintenant, sois à la hauteur de ce que je te considère être. » Ça a le même effet, mais c'est beaucoup moins destructeur, je pense, sur l'estime. Dans le sens que, on t'a pas dit que t'es pas bon, mais à quelque part, t'as peut-être fait, c'est pas pour moi. Ouais. C'est trop pour moi. Je ne remplis pas ces chaussures-là. Ouais. Je ne serai jamais à l'aise. Et le filtre se faisait de toute façon. Ouais. Et moi, m'enligner à 3 ans à faire comme, oui, j'ai le goût de m'essayer à ça, ça me tentait pas mal plus que d'essayer de prouver à quelqu'un qui avait pas le goût de me croire que...
Ouais. Quand ça vient de l'intérieur, tu le sens, puis que... C'est ça que je pense que l'artiste devrait être, là, que c'est quelque chose que tu as envie de faire, que tu mets ça à table, puis que les gens sont comme, hey, ouais, c'est hot, ça, ton produit, versus, ok, non, c'est pas encore assez bon, retourne sa table de travail jusqu'à temps que tu sois fatigué, puis tu
t'écroules. Oui, puis c'est comme si c'était un stage de 3 ans. T'sais, c'est comme si c'était un stage, un stage d'être artiste, tu sais. Ouais. Fait qu'on au lieu de te dire, peut-être qu'à la fin, tu pourras te nommer artiste, si on le veut bien, à quelque part, c'est plutôt comme. Tu veux être artiste, tu vas l'être avec nous pour 3 ans. Wow. En espérant que t'aimes ça, mettons. Fait que moi, j'ai adoré ça. Wow. Tu sais, parce que je savais ce que je voulais faire, puis cette approche-là, je l'ai trouvée extraordinaire, là, tu sais. Ça a beaucoup changé, là, là-bas. C'est plus ce que c'était. En tout cas, pour le théâtre, tu sais, je pense que c'est moins généraliste que c'était. C'était Rodrigue Villeneuve.
Puis, suite à ça, est-ce que tu as une intention précise qui s'est développée dans ta démarche? T'as-tu comme...
Ben, le tu sais, je finissais mon bac, j'ai fait mon... Tu sais, j'ai fait une création à la fin de mon bac, ça, c'était l'étape. Fait que, tu sais, première... Tout de suite, ça m'a mis dans le documentaire. C'était un peu à hasard.
C'était à propos de quoi?
C'est à propos de...
Parce que quand tu parles d'étape, ça me fait vraiment penser au dépanneur en plein milieu de la...
Ben, c'est ça. Okay. Mais l'étape, c'est pas sur... L'étape, c'est parce que c'était sur Allostop, l'ancêtre d'Amigo Express.
Ah, oh, mon Dieu, oui.
Ouais.
OK.
Fait que moi je vivais une relation amoureuse à distance pendant mon bac. Fait que j'étais toujours sur la route du parc. Puis j'étais toujours en train d'embarquer des gens dans mon char.
Ouais.
Et j'étais très, très, très... j'étais vraiment fasciné par le petit climat qui s'installait pendant 2 heures dans la voiture, les gens qui s'ouvraient, qui se confiaient. J'adorais ça. Puis j'ai voulu en faire un show, tu sais. Fait que je me suis mis à soit enregistrer les gens dans le char, soit recontacter des gens dont je me rappelais de l'histoire puis les interviewer pour faire un spectacle immersif qui essaie de recréer ce climat-là, puis qui, après ça, ben parlait nécessairement un peu des enjeux de cette génération-là, puis de cette affaire. Puis, tu sais, qui parlait pas beaucoup d'Allostop, mais qui parlait plus, entre autres, d'amour à distance, tu sais, de qui est un peu vouloir tout en même temps, hein, si on veut, là, tu sais.
Oui, c'est beaucoup d'engagement, puis...
Puis de troubles, là, tu sais.
Oui, vraiment, oui.
Mais des fois, ça en vaut la peine, surtout quand c'est temporaire. Là,
donc,
mais,
c'était comme un peu un théâtre-réalité. Ben un document, pas un documentaire-réalité, mais...
Ben, c'était dans le sens que ça se... Tu sais, c'était comme... Ça, pour moi, ça a jeté les bases de plein d'affaires parce que ça se voulait une expérience, déjà, tu sais, dans le sens où j'avais voulu recréer un dispositif qui reproduisait un peu la voiture. Fait que, tu sais, les spectateurs étaient entourés de 4 écrans. Puis là, moi, j'ai filmé le parc, je ne sais pas combien de fois, à 4 caméras pour avoir mes...
Et il y avait l'effet de vitesse.
C'est ça. On voyait la route qui défilait. Puis, tu sais... Puis j'ai filmé plusieurs fois parce que je voulais que ça change. Quand on changeait... Comme ces personnes-là s'étaient pas rencontrées, ben, tu sais, je voulais que ça change de moment quand on changeait de personne. Fait que là, tu sais, je l'avais deux... Le matin, il fait beau, il pleut, la nuit...
Toutes
les saisons, c'est ça. Puis après ça, ben les acteurs étaient assis parmi les spectateurs.
Ah.
Le chauffeur était assis en avant, on avait une petite caméra qui filmait ses yeux, on avait comme créé un genre de petit rétroviseur dans l'écran en avant.
Wow.
On séparait les gens qui étaient arrivés ensemble pour qu'ils se retrouvent assis à côté d'un inconnu.
Quelle bonne idée.
On avait attaché on avait tie-wrappé les sièges pour qu'ils puissent pas comme se donner un peu de distance avec leurs voisins. Puis ce qui était super, c'est que les gens, finalement, ils agissaient un peu, les spectateurs agissaient un peu comme les passagers, là, tu sais, comme ils se retrouvaient un peu trop proches, ben là, ils se présentaient un peu, tu sais, dans le sens qu'on va passer un moment ensemble dans une trop grande proximité, puis j'ai pas la facilité de parler avec mon ami, mon conjoint à côté, fait que ben, je vais être obligé de m'ouvrir un peu à la personne qui touche mon bras en ce moment parce que nos chaises sont beaucoup trop proches.
OK. Fait que t'allais jusque-là, là, comme...
Oui, c'est ça.
T'inclus le spectateur pour qu'il soit...
Pour qu'il soit dans l'expérience, dans le sens que... Moi, c'était ça, moi, c'était genre, je veux vous amener dans un char à l'autostop pendant 1h15 pour que vous entendiez le climat, mais pour moi, ça allait aussi avec ces affaires-là, cette proximité-là, puis tout.
Première création-là. Là. Chaque fragment ressemble un peu à ce que tu produis aujourd'hui,
ouais.
La façon dont tu t'y mets, mais ça reste que comme ébauche initiale, j'ai l'impression que ça nourrit l'imaginaire, que ce soit quelque chose d'aussi simple, qui a quand même une mise en scène intéressante, puis de justement d'aller chercher, un peu changer les codes du théâtre.
De jouer avec, là, se permettre de jouer avec, de se dire que la salle aussi fait partie, tu sais, ben c'est ça, c'était tout de suite une inclusion du spectateur qui ne me quitte pas, là, tu sais, puis de penser son expérience pas juste en tant que quelqu'un qui va voir, qui va s'identifier, mais quelqu'un qui va avoir une expérience propre, puis que ça se prépare avant, ça a rapport avec comment la salle est aménagée, ça a rapport avec comment on l'accueille, ça a rapport avec plein de choses. Fait que oui, il y avait déjà... C'est juste d'ouvrir toutes ces possibilités-là, déjà. Puis, ben, à quelque part, une chance, je l'ai faite à l'université, parce que personne me challengeait comme on aurait pu le faire dans une production professionnelle, parce que personne me challengeait sur... le confort, tu sais, comme... Parce que dès que tu tombes en professionnel, il y a toujours des enjeux de mise en marché, de...
Il y a la machine un peu en arrière.
Une sorte de machine, mais qui est correcte, mais tu sais, comme, mettons, on va te poser beaucoup plus de questions de... pourquoi t'es séparé, tu sais, nos abonnés, peut-être que... Tu sais, c'est des questions légitimes, mais qu'à l'université, n'existent pas. Ils ne sont pas là pour vendre des billets, là, tu sais.
C'est
un terrain de jeu. Puis les spectateurs sont là pour venir... voir ce qu'un étudiant en fin de bac a décidé de faire comme création. Fait que je pense que de l'avoir fait à l'université, puis la même chose avec Changing Room, de l'avoir fait ici, là, à l'Université Laval, ben c'est ça permettait de se donner énormément de permissions sur toutes sortes de choses qui, rendues dans un autre théâtre, devenaient beaucoup plus complexes, mais qui était moins challengé parce qu'il savait que ça faisait partie du concept puis il l'avait vu. Il constatait. On n'avait pas à les convaincre que ça valait la peine.
C'était comme ta vitrine d'être dans ces programmes-là.
C'était pas voulu de même, mais ça a complètement... Ben oui.
Incroyable.
Oui, parce qu'après ça, les gens me connaissaient pas. Les gens pensaient tous que je venais du Saguenay. Mais les gens m'ont connu à travers mon travail. Fait que ça, c'était fantastique parce qu'après ça... S'il m'invitait, dans le temps, c'est Marie-Ginette Guay qui était directrice artistique du Périscope. Ouais. Quand elle m'a invité pour ces deux créations-là, elle voulait ce qu'elle avait vu. Elle voulait qu'on refasse ça parce que globalement, elle trouvait que ça marchait. Puis elle avait le goût de présenter ça à son public. Puis c'était ben évidemment, quand tu programmes quelqu'un de la relève, c'est pas sur sa réputation, là, de toute façon. Mais,
non.
Mais elle m'a pas eu comme élève au conservatoire ou rien. Là, elle a vu du travail. En fait,
d'une certaine façon, tu prônerais plus le montrer plutôt que le dire. Donc, le faire, puis que les gens viennent voir ça et s'inspirent de ça pour faire je veux travailler avec cette personne-là?
Ben, de toute façon, ça... C'est déjà un peu comme ça, puis tu sais, puis heureusement, je pense que c'est mieux ça, parce que après ça, tu sais, c'est une qualité indispensable d'être capable de verbaliser ses idées, là, mais reste que, tu sais, on veut pas savoir, on veut voir, là, tu sais, il y a quelque chose de... quelque chose d'un peu insurmontable là-dedans. Si tu, si je le vois, si je le vis...
Ça existe.
Ben, il y a plein de choses que tu n'as plus besoin de m'expliquer, là, tu sais.
Oui.
Fait que c'est pour ça que des plateformes comme les chantiers, puis tout ce que permet Première Ovation, tu sais, jusqu'à un certain point, premier acte, tu sais, qui facilite des premières œuvres, c'est indispensable, tu sais.
Oui.
On peut pas s'attendre à ce... De toute façon, il faut que les gens se fassent la main, là, tu sais. On peut pas s'attendre que tu mijotes chez vous pendant 7 ans puis que tu sois prêt à monter un show Trident. Ça peut pas être une première mise en scène. C'est normal. C'est un grand plateau, tu sais. Oui. Les contraintes sont nombreuses, tout ça. Fait que... Moi, oui, tu sais... Mais tu sais, après ça, même pour faire ton premier labo, faut que tu obtiennes une première bourse. Fait qu'il faut que tu présentes tes idées. Faut que tu convainques déjà du monde sur papier...
Oui,
de toute façon, tu t'en sors pas, mais c'est les deux, tu sais. Mais je pense que montrer son travail, laisser le travail parler à notre place.
C'est l'important. La voix qu'il faut suivre.
Ben, d'une certaine façon, je pense que oui. Mais de toute façon, c'est inévitable de devoir faire valoir nos idées autrement, là, tu sais, par écrit et tout ça.
Oui.
Mais que ces plateformes-là, tu sais, le jamais lu aussi, là, tu sais, comme entendre le texte plutôt que de le lire sur papier.
Ouais.
Juste ça, c'est bête, là. Mais ça, là, ça nous ramène à comment on fonctionne, comment notre cerveau est fait, notre cerveau, mais notre cœur aussi, là. Mais tu sais, en tant qu'humain, comment on reçoit les choses. Je reçois pas un texte de théâtre de la même façon sur papier. C'est pas fait pour ça, de toute façon.
Non.
Tu sais, bien lire un texte de théâtre sur papier, je pense qu'il y a pas tant de monde qui sait faire ça.
Non.
Dans le sens d'être capable de l'apprécier à sa juste valeur, puis d'être capable de déterminer ce qui est bon, pas bon, parce que un texte qui se lit extrêmement bien sur papier, il y a probablement trop de mots pour... ce qui va être dit sur une scène. À l'inverse, un texte très économe, il va peut-être être vraiment dur à suivre sur papier, tu sais, comme...
Ouais. Une fois dit avec une...
Après ça, le directeur artistique devrait avoir cette capacité-là, là, tu sais. Mais c'est rare, ça, je veux dire, là, tu sais.
Mm-hmm.
Puis c'est pas parce qu'on publie du théâtre que... Puis que ça se lit, que c'est facile. En tout cas, ça fait pas de... Tant mieux si les gens ont un bon moment en lisant, là.
Ouais.
Mais ça rend pas l'œuvre, puis surtout, c'est pas interchangeable, là, puis...
Puis un peu dans la même veine, une fois que tu as montré ton travail, comment tu surmontes peut-être l'inquiétude ou la gêne que ça peut entraîner ou l'inverse, c'est quoi le sentiment que ça procure?
Ouais, moi j'ai jamais vécu, j'ai jamais été comme dans être gêné là, tu sais, je trouvais ça vertigineux, j'étais fébrile, tu sais, un peu anxieux mais j'avais hâte surtout de le partager, tu sais. Puis idéalement, je trouve que c'est ça, tu sais, on devrait aimer nos affaires puis avoir juste hâte de les partager, tu sais. Après ça, c'est le processus, tu sais, on y arrive-tu à temps et tout, mais je pense qu'on devrait être... Ben, en tout cas, je fonctionne de même, là, tu sais. Je veux dire, ça m'excite de rencontrer le public, là, puis de leur montrer, parce que si je travaille dessus, sur une idée, c'est parce que je pense qu'elle vaut la peine d'être montrée. Là.
Oui. Oui, oui, oui.
Mais ça, en tout cas, si je l'ai proposé pour une présentation publique, parce que des fois, je travaille sur des idées dans lesquelles je crois, mais que je suis pas encore convaincu que c'est rendu à faire une production. Fait que j'inviterai du monde à voir ça quand
tu sentirais que le moment...
Ou alors quand j'aurais besoin d'avoir du public ou d'avoir un retour, peut-être, tu sais.
Oui.
Mais
OK. Fait que plus dans la hâte de mon
ben oui.
Ouais. Non, mais
ben, je pense.
C'est une bonne posture.
Idéalement, ça, il me semble qu'on devrait être excité de montrer nos trucs, là, tu sais.
Ouais.
Je comprends que le track peut nous terroriser un peu, mais je pense qu'il faut qu'il y ait au moins un peu en dessous d'une excitation, faire comme. C'est vraiment une bonne idée. J'ai vraiment le goût de vous le montrer. S'il n'y a pas ça, ça doit être tough, là.
Je veux passer maintenant à la création du collectif. Nous sommes ici.
Oui.
Ça s'est fait en 2009.
Oui.
Puis, comment ça s'est passé?
Oui.
T'es levé un bon matin, puis bam, nous sommes ici.
C'est venu, tout remonte justement à l'époque de l'étape, de les chantiers. Puis c'est ça, moi j'avais connu beaucoup de gens à Troupe des 13. J'ai fait 4 productions en 2 ans au 13, si je ne me trompe pas. Mmh. Ouais.
Un bon nom.
2 que j'ai montées, 2 dans lesquelles j'ai joué. Oui, c'est ça. Fait que j'avais connu du monde. Puis moi, c'était clair qu'après le bac, je revenais à Québec. Fait que là, en même temps, dans les mêmes années où j'ai fait le bac, Frédéric Bradette, elle, était au conservatoire.
Ouais.
Fait que moi, je voulais la retrouver après. Fait que...
Tu la connaissais déjà?
Oh, j'ai connu au 13.
OK, OK. Dans
les deuxième mise en scène, c'était une création collective. Puis... inspiré des...
À l'intérieur de ça, vous autres, dans les 13 avec Frédéric, vous avez exploré par ce processus-là?
Oui, puis on a créé un spectacle qui s'appelait Deux eaux, puis qui était foisonnant, mais qui était très le fun. Puis donc, j'ai rencontré Fred, ça a été c'était un coup de foudre, puis on s'est retrouvés. Fait que quand est venu le temps de faire l'étape, ben, j'ai retrouvé Fred, j'ai retrouvé Raymond Poirier, que j'avais connu au 13 aussi, qui aujourd'hui fait complètement autre chose dans la vie, que je salue, parce qu'il a vraiment fondé la structure administrative de Nous sommes ici. François Leclerc, que j'avais connu sur un autre... Les Feluettes à l'époque. En tout cas, fait, tu sais... puis Geneviève Dionne, qui faisait partie aussi de Kamouraska, tout ça. Fait que...
Comment je dirais, on dirait que c'était comme des collègues que tu as eus, que tu as rencontrés dans ton jeune temps, dans le cégep, dans l'université, peut-être secondaire. Puis
toute l'université, toute la troupe des 13.
L'université, OK.
La troupe des 13, pour moi, c'était vraiment...
T'as retrouvé ces gens-là un petit peu plus tard.
Je leur ai proposé de venir, d'embarquer là-dedans. Il y avait le premier projet. Puis après ça, le mot collectif, il a toujours été un peu abusif, là. Tu sais, dans le sens où c'était pas un collectif tant que ça. Ben, tu sais, dans le sens où ça restait que c'était moi le leader, là, tu sais, puis qui amenait les idées, mais c'est juste que le mot théâtre m'embêtait beaucoup. Fait que j'avais choisi ce mot-là, qui a peut-être créé de la confusion, puis qu'on tend à moins utiliser, en fait. Maintenant, on dit plus « nous sommes ici ». Non, mais nous, on le délaisse, parce que justement, comme il y en a full qui s'en revendiquent, puis qui, pour des excellentes raisons, puis parce qu'ils vivent vraiment l'idée de collectif, ben nous, ça devient un peu comme...
C'est pas le bon terme.
C'est pas le bon terme, là. C'est ça.
Aujourd'hui.
Fait qu'on en même temps, on n'a pas remplacé ça par un autre substantif. Il n'y en a juste pas. C'est juste « nous sommes ici ».
Nous sommes ici.
Ouais. Ah. Mais il y en a plein de compagnies. Tu sais, Ex Machina, c'est projet Ex Machina. Porte-parole, c'est projet porte-parole. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui... Oui, mais qui ne choisissent pas théâtre, tu sais.
Mm-hmm. Puis aussi, ça peut être bon des fois de pas nécessairement aller, de pas se nommer théâtre parce que ça laisse une certaine latitude justement d'aller vers quelque chose qui est plus multidisciplinaire.
Oui, et puis on veut pas. C'est juste pour pas que créer une sorte d'idée préconçue de ce que ça peut être.
Puis tu l'as un peu touché tantôt, mais je me demandais, tu sais, vous faites beaucoup de la création au niveau du documentaire.
Ouais.
Fait que je me demande, est-ce que les gens à l'intérieur sont invités à dire « Hey, ça, c'est quelque chose, un enjeu que j'aimerais toucher. Est-ce qu'on peut y aller? » Est-ce qu'il y a comme des tables rondes de « OK, on y va, on fait ça comme ça. » C'est quoi un peu le processus par lequel vous vous dites « OK, cette idée-là, on la prend, on la forme. »
Si, comme je disais, c'est souvent... C'est moi l'initiateur des projets, mais ils mijotent longtemps. Fait que, tu sais, l'équipe a le temps de... d'amener de l'eau au moulin, tu sais, pendant la création, tu sais, comme, mettons, quand on a fait Singulière, justement, puis là, on était sur le célibat féminin, ben là, c'est sûr que Fred, mais aussi Stéphanie, la personne à l'administration, à la production, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, je me disais, je validais tout, là, tu sais, j'étais là, j'ai besoin, tu sais, genre, dites-nous si on fait fausse route, là, tu sais, parce que, tu sais, ça reste délicat, surtout notre époque, tu sais. Puis en même temps, je revendique le droit de m'intéresser à autre chose, tu sais, de pas juste parler de...
ce que toi...
de ce que je vis directement. Je trouve la posture de s'intéresser à l'autre, elle peut pas être invalidée complètement, puis elle peut pas disparaître, tu sais. Mais je comprends de pas prendre la parole pour les autres, mais donner... parce que c'est ce qu'on fait, je trouve, donner la parole aux autres, puis s'intéresser à l'autre. On ne peut pas juste parler au jeu, je suis persuadé de ça. Fait que,
très vrai.
Mais évidemment que j'ai des malaises, des fois, avec des démarches qui, je pense, on ne voit plus vraiment, mais où tout à coup, on se mettait dans la peau d'eux, puis on s'imaginait ce que devait vivre telle population, telle... Ça, je suis pas mécontent qu'il y en ait moins,
ouais,
mais...
Mais comme tu dis, de s'intéresser et ben, de peut-être prendre le micro et d'aller faire « Hey, t'es-tu intéressant à m'en parler? Je m'intéresse à ce que tu fais », de le pointer à la personne et faire tu peux parler, c'est ton espace, vas-y, ouais. J'ai envie que tu m'en parles. T'sais.
Ben, t'sais, comme c'est ça, quand on a fait Singulière, si j'étais à l'origine du projet, puis on a demandé à Maxime Beauregard-Martin de faire l'enquête, là, t'sais, d'aller recueillir les témoignages, puis de l'écrire. T'sais. Fait que là, on était deux hommes gays qui s'intéressent au célibat au féminin. En même temps, ça nous intéressait vraiment, parce qu'on était là, ce sont nos amis. Uh-huh. Genre, et on...
T'en entends parler à chaque
j'en
jour.
J'en entends parler tous les jours, et je les trouve touchantes, t'sais, ces femmes-là, t'sais, pour toutes sortes de raisons, puis... Fait on était là, on marchait sur des œufs, tout ça, mais on était là. Mais notre intérêt vaut quelque chose, tu sais. Oui. Puis c'est surtout, c'est de l'intérêt, puis c'est de la tendresse aussi, à quelque part, là. C'est de l'affection, là, ben tu sais. Oui. Fait que...
C'est accessible aux communs immortels, là. Tout le monde en vit, fait que c'est comme... Nécessairement, c'est un sujet qui est intéressant.
Oui, puis tu sais, après ça, on s'est dit, il y a des choix qu'il faut qu'on fasse. Fait que, tu sais, on a fait, là, on va pas structurer ça autour... Tu sais, parce que souvent, le théâtre documentaire peut être structuré autour d'une quête d'un protagoniste qui est l'enquêteur, mettons. Mm-hmm. Là, on a fait ça, ce serait vraiment inapproprié. On veut pas que ce soit l'histoire d'un gars qui enquête sur des filles, tu sais, mettons. Parce que là, ça devient l'histoire d'un gars, à quelque part.
Effectivement, oui.
Fait que là, on a fait, OK, parfait. Fait que là, genre, le gars, il est accessoire, là. Tu sais, comme... Il pose des questions quand il a besoin de poser des questions,
mais
il nous raconte pas. C'est pas son histoire à lui. Mmh. Puis en même temps, on n'a pas le goût d'engager un gars, de mettre un gars sur scène pour ça. Fait que les filles s'échangeaient le rôle. T'sais, finalement, c'était une casquette, là, le rôle de l'intervieweur. C'était une casquette parce que c'était pas ça l'idée. T'sais, les filles jouaient un peu de dos, de côté, avec la casquette. Puis...
une petite voix un peu plus grave. Puis,
À peine, tu sais, okay, comme... That's it, dans le sens que... Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est des choix qu'on faisait, tu sais, en se disant... Tu sais, à quelque part, on donne tout le temps de scène, toute l'attention aux femmes qu'on a choisi de représenter dans le spectacle puis qui nous ont intéressées.
Incroyable.
Puis c'est ça. Fait que nous, on était en paix, on était à l'aise avec ça, tu sais, de faire comme... C'est le reflet de ce qui nous touche, puis on s'est pas interposé, tu sais. Je sais plus d'où on est parti. Tu me parlais de d'où viennent les idées, ben c'est ouais. Ça. Fait que, ben écoute, c'est un exemple, là, tu sais.
C'est un très bon exemple.
Qui a été bien, beaucoup mûri à l'interne. Là.
OK.
Ouais.
Fait que, un peu de, j'allais dire, fermentation, là, je suis un peu dans les cannes, mais tu sais, ouais. L'idée de tu laisses fermenter, tu laisses
voir ce
qui sort, puis... Ah, c'est bon. Pas encore prêt. On va attendre encore un peu.
Oui. Dans. Je sais pas.
Mais là, en ce moment, tu sembles utiliser la formule du laboratoire quand même beaucoup.
Oui,
puis,
oui.
Puis justement, si tu parles un peu plus du laboratoire, c'est que tu arrives là, tu es un peu comme une recherche, tu as une question d'hypothèse, puis tu dis, OK, moi aujourd'hui, je teste ça. Et là, tu arrives dans la salle de représentation, tu mets des affaires, tu laisses les gens rentrer, un peu comme des souris dans un labyrinthe, puis genre, tu regardes les réactions, puis tu les laisses sortir après, puis tu es comme, OK.
Je suis peut-être moins méthodique que ça. C'est okay. sûr que les labos sont vraiment pas tous pareils. Tu sais, comme là, pour la mise en scène de la vie quotidienne, c'est sûr que là, on part sur des idées. Là, on est plus dans le mode avec hypothèse. Tu sais, comme, OK, aujourd'hui, on l'a, t'sais, aujourd'hui ou cette semaine, on l'aborde de telle façon. Tu sais, comme on a fait tout un laboratoire où on s'est dit... où on a misé sur le fait que on voulait miser sur la différence entre acteur professionnel et acteur du quotidien, puis que l'acteur professionnel, il a énormément de charisme. Et donc, que la personne qui aurait le plus besoin d'entendre cette théorie-là de Goffman serait probablement la personne la plus démunie de charisme. Fait que là, on a fait une semaine de l'improvisation. c'était hilarant, mais mettons, on n'a pas conservé grand-chose de ça, mais d'excellents acteurs comme Frédéric Bradette, Hugues Frenette, qui improvisent des gens tellement démunis, tellement limités, mais tu sais, dans leur capacité d'interagir.
Oui.
Je veux dire, on pourrait jamais montrer ça parce que ça frôlait toujours des... Puis c'est normal, c'est de l'impro, là, tu sais, ça. Mais
c'est ce qui sort de l'impro, tu le contrôles pas. Puis...
Non, c'est ça.
Mais effectivement, si tu dis que c'est l'idée, c'était de voir...
C'est ça l'hypothèse, tu sais. Qu'est-ce que ça fait de voir des gens pas de charisme? Soit qu'ils jouent à un meurtre et mystère parce qu'on voulait comme faire du semi-théâtre dans la vie. Je te raconte ça, c'est, je veux dire, je pense que j'ai jamais autant erré non plus dans un... C'est pas représentatif de mes autres projets. Il y a beaucoup, non. beaucoup d'errance dans ce projet-là.
C'est beau, ouais. C'est intéressant quand même, la voie du laboratoire, de creuser, juste de voir, puis de donner aussi peut-être à d'autres gens des outils, comment que justement le laboratoire peut être utilisé.
Oui, mais je fais aussi des laboratoires beaucoup plus structurés. Là. C'est-à-dire que les laboratoires dermaturgiques, c'est ceux que je fais le plus souvent. C'est-à-dire qu'on a du texte qui est à n'importe quel niveau d'avancement,
oui.
on le lit et surtout, on se lève. Oui. Et moi, c'est ce que je trouve qui est le plus efficace. Une fois que c'est bon à table, pour moi, il reste au moins un tour à faire, c'est qu'il faut le bouger. Et là, moi, je fais de la mise en place grossière. Là. Je l'improvise, là, quasiment, parce que souvent, le texte, je ne l'ai pas eu d'avance, fait que je ne peux pas comme avoir prévu une mise en place. Non. Mais ce n'est pas grave, parce que juste en le bougeant, il y a plein de mots qui deviennent de trop.
Oui.
Fait que ça, on en fait souvent. Puis sinon, d'autres ateliers, d'autres labos qui deviennent plus comme des ateliers de production, ça, c'est du luxe, là, mais c'est... Mais tu sais, comme on en a fait trois semaines, je pense, sur « N'essaie jamais de l'arme sans gants », où là, mettons, on a du texte, on a du décor, et là, mettons, on crée des effets, on met à l'épreuve le... Tu sais, on avait des prototypes de décor, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, dans la compagnie, maintenant, il y a Ariane Sauvé, la scénographe. Maintenant, ça fait quand même 9 ans qu'elle est là, mais elle était juste pas là à la création. Puis elle travaille beaucoup avec Ex Machina, là. C'est elle qui fait la plupart des... Elle est souvent co-conceptrice des décors avec Robert Lepage. Là, t'sais.
C'est un peu ce que donnait, je dirais, le décor grandiose d'avoir des gros praticables qui se déplacent.
Ben, oui, on l'avait. On devait faire autre chose. On devait faire des petits plateaux, là, t'sais, un peu plus. En tout cas, des petits plateaux avec des micro-décors hyper réalistes.
Oui.
Puis. Mais finalement, elle m'a dit. Hey, on va faire 6 salons, 5 cuisines. Là. Ça va être vraiment plate. Fait que, OK, parfait. On ne représentera pas les lieux. C'est pas intéressant.
J'imagine fait. Un Hosanna qui aurait été...
Ben, c'est ça. C'est elle qui a fait Hosanna aussi. Fait que, c'est ça. En fait, tout ça est inspiré d'Ariane Mouchkine, un spectacle Les Éphémères. Là, qui, c'est là, dans le sens que... Elle n'a pas repiqué l'idée qu'on avait ensemble. Elle a surtout repiqué une inspiration qu'on avait, qu'on avait déjà pour... un autre spectacle, mais qui est peut-être dans une certaine version de la mise en scène de la vie quotidienne, ça pourrait être ça. Mais,
ouais. Mais comme il y a des idées qui sont restées, qui restent dans le cahier, puis c'est comme
oui.
quand ça va revenir.
Fait que c'est ça. Fait que tu sais, des laboratoires, c'est ça. Tu sais, je dirais, il y a comme des laboratoires vraiment intuitifs ou tu sais, sur des hypothèses, mais tu sais, où il y a vraiment peu de choses, comme là, on va refaire encore ce printemps sur la mise en scène de la vie quotidienne. Les laboratoires dramaturgiques, on a fait. tout inclus. Il y en a eu. Les sujets de larmes sanguins, il y en a eu aussi. Puis un gros atelier de production avec musique, tu sais. Mais là, on avait des conditions assez exceptionnelles. Tu sais, c'était une coprode avec le Trident, tu sais. C'était Nous sommes ici et le Trident, fait que ça permettait d'avoir plus de temps, tu sais.
Oui, effectivement, ben, les coproductions semblent être un modèle qui est intéressant là, dans la façon de fonctionner.
Oui. Oui. Fait que les laboratoires, c'est... Mais ça peut être ce qu'on veut, dans le sens que... Comme là, je vais collaborer à un chantier, là, je peux pas en parler, parce que c'est pas annoncé, mais, ouais. Mais tu sais, dans ce chantier-là, il y a l'auteur qui porte le projet, il a identifié 4 questions, puis c'est ça qui va être le programme de travail pour le chantier, puis ça va être super, là, tu sais. Ouais. Mais il y a déjà, c'est parce que son texte est déjà avancé, tout ça, mais là, rendu à comment ça va prendre forme.
Ouais.
Fait que là, il y a des questions précises sur comment faire, quelle forme donner à ça, qu'on va valider pendant cette étape-là.
Ah, OK. Ben, si justement, on parle un peu plus des productions que vous avez faites, fait que, justement, récemment, vous avez fait N'essuie jamais de larmes sanguins.
Ouais.
Une œuvre, ma foi, j'ai eu beaucoup de misère à ne pas pleurer en la lisant et en la regardant. Je veux dire, j'ai passé 3 heures à un moment donné, j'avais plus de larmes à donner. Mm-hmm. J'ai eu l'entraque.
Ouais.
J'ai eu comme 2 minutes de pleurage. Puis après ça, j'étais genre, hey, c'est terminé, je suis sec.
Ben oui.
Mais dans comment ça s'est passé de faire la traduction, le choix de l'œuvre, comme. C'était quoi le moteur qui t'a amené à vouloir faire ça?
Ben, tu sais, c'est mon contact avec le roman qui a été le point de départ, là, tu sais, mais qui s'est venu rejoindre quelque chose qui m'habitait, une sorte de certitude que j'allais un jour parler de l'épidémie de VIH-Sida,
oui.
Parce que ça a beaucoup teinté mon expérience de grandir en ayant l'intuition d'être gay.
Oui.
Fait que c'est ça, grandir dans les, tu sais, mettons, moi, j'étais adolescent dans les années 90, là, fait que, tu sais, puis j'étais un enfant qui écoutait beaucoup les nouvelles, tout ça, fait que...
Ça l'a frappé fort.
Là, ça frappait fort, puis c'était comme, c'est comme si ça devenait comme... en tout cas, à cette époque-là, c'est plus ça aujourd'hui, mais à cette époque-là, non seulement il y avait toute la haine, l'intolérance envers les personnes homosexuelles, mais il y avait, là, en plus, il y avait une fatalité. Il y avait comme les gays finissent par mourir du sida. Donc, c'était même une condamnation à mort. Fait que c'était troublant, tu sais.
Oui.
Je pense que, à cette époque, je veux pas comparer les époques, mais ce que je peux dire, c'est que au-delà de l'intolérance, cette peur-là d'être condamné à mort, ajouter encore plus à la terreur que ça pouvait représenter de se deviner homosexuel.
Oui, oui.
C'était raide. Fait que je pense que ça a été marquant, tu sais. Puis c'était l'époque où il y avait énormément de campagnes aussi. Ben, tu sais, dans les années 90, c'est arrivé de campagnes de sensibilisation, tu sais. Oui. Le port du condom, tout ça, tu sais. Puis là... Puis c'est vraiment notre génération. On dirait que, en tout cas, Véro Côté est née la même année que moi ou l'année d'avant. On a sensiblement le même âge. Puis les deux, on a été, tu sais...
Votre vision, ça se rejoignait à ce que vous...
Mais on sent que notre génération, elle a été bien drillée, là, tu sais, sur le condom, l'alcool au volant. Puis elle ajoute la crème solaire. Moi, ça a peut-être moins marché. Mais pour vrai, on a été drillés, là. Puis le casque à vélo aussi, là. Oui. Fait que... c'est ça. Fait que là... fait qu'on a été... mais dans le sens qu'on... c'était un climat particulier.
Oui.
Tu sais, j'en ai parlé avec beaucoup de monde. Puis je pense que... Pour du monde un peu plus vieux que moi aussi, donc, tu sais, les X, les plus jeunes, c'était... Eux autres, c'était aussi la découverte de l'amour, là, tu sais. Mm-hmm. Et là, même si c'était les hommes homosexuels qui étaient les plus touchés... on le savait que ça touchait pas uniquement cette population-là. Fait que la terreur, elle se répandait aussi.
Oui.
Et il y avait l'équation, tu sais, amour égale mort, tu sais, qui est l'ensemble, tu sais. Oui. J'ai compris des choses aussi en faisant le projet, quand on développait notre projet d'expo photo, donc en me rapprochant un peu du milieu communautaire. qui nous aidaient là-dedans. Il y avait des campagnes extrêmement frappantes qui étaient faites, mais des fois, ils étaient potentiellement trop frappantes. Tu sais, comme il y en a une qui a marqué énormément de monde. C'est comme un couple enlacé. Ils sont comme en train de s'embrasser, voire de faire l'amour. Mais c'est une sculpture comme une épitaphe là, de Pierre Tombal. Là, tu sais,
oh mon Dieu!
Pour l'association de l'amour et la mort. Mais ce que j'ai compris, c'est que le communautaire avait très, très peu son mot à dire parce que c'était fait pro bono par les compagnies de com qui, elles, ben y allaient avec l'idée qui les allumait le plus, puis ça les allumait fort parce qu'ils pouvaient aller dans des zones où ils vont jamais.
Oui.
Tu sais?
Fait qu'ils se sont laissés
aller. Fait qu'Eros et Thanatos, ça y allait à fond. A posteriori, ben c'est ça, ce que j'ai compris. Le communautaire n'était pas tellement d'accord avec cette façon-là de présenter les choses, mais ils ne pouvaient pas tellement refuser.
Ça avait été filmé, tourné, c'était monté. Ben,
de toute façon, il n'y avait pas les moyens de payer, fait que c'était ça. Puis aujourd'hui, on se rend compte que ben c'est pas en... ça, faire peur au monde, c'est
pas une manière de prévenir.
Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement la meilleure, en tout cas. Mm-hmm. Mais je peux te le dire, ça marque longtemps. Fait qu'on a grandi là-dedans. Fait que c'est parti de l'œuvre, donc j'étais habité de ça. Fait que j'ai très vite contacté Anne-Marie Olivier, qui était directrice artistique du Trident. J'ai parlé de ça, elle a lu le livre, elle a fait « Oh oui, on le fait ». Tu sais, comme elle a senti la même évidence, là. Puis ensuite, on a choisi Véro. Elle avait adoré le roman. Moi, je la connaissais très peu en tant que personnellement, Véro, mais elle a un côté... disons, romantique, un peu lyrique, je trouvais qu'il allait vraiment bien avec ce texte-là. Quand j'ai su qu'elle était déjà une fan du roman, j'ai fait, ben là, ouais, c'est parfait.
C'est encore mieux quelqu'un qui trippe sur une œuvre pour la...
Puis c'était le fun qu'elle soit pas... tu sais, des fois, je fais, ah, coudonc, je me mets-tu dans le trou, mais pour moi, j'avais... Tu sais, dans l'idée de faire des équipes un peu paritaires, comme là, c'était une distribution de gars, j'étais là, on va aller chercher des femmes dans l'équipe. Il y en a qui font comme, pourquoi vous n'avez pas demandé à un homme gay de l'adapter? Mais j'étais là, il n'en manque pas d'homme gay dans le projet. Puis, puis en même temps, c'était le fun parce qu'elle, elle a découvert des choses en faisant cette adaptation-là. T'sais. Elle ne connaissait pas l'ampleur des luttes LGBTQ de cette époque-là. Puis, mais aussi, c'était le fun qu'on soit pas trop juste entre nous.
Ben parce qu'il y aurait peut-être eu un manque de détails, peut-être, parce que quelqu'un qui connaît pas un enjeu va souvent peut-être poser des questions qui vont peut-être être maladroites, mais qui vont servir à faire taper. C'est peut-être pas comme ça qu'on veut que ce soit perçu.
Ben oui.
Faut revenir un peu. Puis que ce
soit oui. Mais ça a été super. Là, ça a été super pour travailler avec elle parce que le matériau de base était bon. Mais tu sais, ça s'est étalé sur longtemps. Là, le projet était un peu retardé à cause de la pandémie, comme bien d'autres. Mais puis on a eu des labos, tout ça. On a fait des auditions pour les acteurs. Les acteurs étaient en feu. Ils voulaient faire le... Tu sais, il y a eu des revers dans ce projet-là, mais ultimement, il y a eu tellement de bonnes choses, tu sais, dans ça, Véro, c'était la bonne personne, la distribution. Peut-être finalement, j'aurais pas pu demander mieux.
Non, les personnages ressemblaient à ce qui pouvait s'être imaginé.
Oui. Oui, puis la musique, tu sais, moi, une année, j'ai flashé sur le concerto de Mendelssohn qu'on a utilisé. J'ai reparlé à Anne-Marie Bernard avec qui j'avais fait Amadeus. Elle n'était pas convaincue d'emblée, mais de ce choix musical-là. J'ai dit, il faut qu'on aille au bout de ça.
Oui.
On l'a travaillé finalement. C'est devenu la trame sonore de l'ensemble du show, ou presque. Là, t'sais. Puis ça aussi, c'est une collaboration tellement le fun. C'est vraiment le fun parce qu'elle me donne. T'sais, Anne-Marie, c'est la personne qui. Elle n'est pas juste ça, là, mais c'est comme une traductrice. Là. Elle me donne accès à la musique d'une façon que. Je sais que j'aurais jamais accès par moi-même. Là, t'sais. Wow. On discute et tout de suite, elle traduit en musique, t'sais, au piano. Là. C'est une pianiste. Là.
Wow.
Et après ça, elle devient, comme elle fait la direction musicale, elle devient aussi elle dirige l'arrangeur, tu sais, puis elle dirige les musiciens. Fait que tu sais, c'est un...
La musique devient ton atmosphère est occupée.
Oui, c'est ça. Ouais, fait que travailler avec elle aussi, tu sais, quelle chance, tu sais. Puis, tu sais, après Amadeus, on s'était dit, faudrait en refaire un autre. Mais j'étais là, tu sais, c'est pas le genre de choses qu'il faut forcer, là. Tu sais, comme, faut attendre que ça soit là.
Oui.
Le bon projet, tu sais. Puis là, ça s'est présenté. Fait que là, on est dans la même... Là, j'ai dit, on s'est mis d'accord que, tu sais, il y en aura d'autres, mais faut pas essayer de le provoquer trop parce que... Là, je pense à elle, on est dans le caso, son bureau est ici. Là, parce
après,
quelques étages plus haut, mais c'est parce qu'elle est pianiste accompagnatrice pour les... Surtout les chanteurs, mais pas que. Je pense que c'est les musiciens aussi.
Ouais.
On est venu travailler ici là, pour... justement, se faire la sélection et tout.
Très, très cool, ça.
Ouais.
J'avais peut-être une question. Selon toi, tu penses, ça va être quand même simple, penses-tu que le théâtre documentaire devrait prendre plus de place dans l'écosystème des productions actuelles? Et on devrait en voir plus?
Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que j'ai envie de dire que c'est pas à moi de me prononcer là-dessus, là, mais... Écoute, moi, je suis content que... En fait, moi, pour moi, c'est pas une question de quantité, mais je suis comme content que ça devienne maintenant... Ça fasse partie, pour beaucoup plus de monde, de la boîte à outils. Mm-hmm. Que maintenant, quand ils s'intéressent, quand les auteurs, les créateurs, les auteurs, les autrices, créateurs, autrices s'intéressent à un sujet,
ouais.
Que... Ils se disent pas nécessairement « je suis quelqu'un qui écrit de la fiction », mais que, tu sais, ils se disent « je fais du théâtre
».
Et qu'une des options, ce soit le théâtre documentaire.
Mm-hmm.
Puis que chacun se pose la question « est-ce que ce serait… est-ce que j'invente une histoire ou est-ce que je pense que ça peut être plus fort d'aller à la rencontre puis de gens puis de ramener ça sur scène ?» Moi, je pense que c'est ça qui a été… qui a vraiment évolué depuis que nous, on a commencé.
Oui.
Puis que depuis que Porte-Parole a pris toute cette... a démocratisé de façon assez extraordinaire le théâtre documentaire. Oui. Mais pour moi, c'est pas... Il devrait-il en avoir plus ou moins, mais je suis content qu'il y en ait. Je suis content que ça fasse partie des possibles, autant pour les spectateurs que pour le public, que pour, tu sais, les créateurs.
Oui.
Parce que maintenant... Parce qu'il faut que les spectateurs... soit prêt à le recevoir aussi. Puis là, si on le sait que ça se peut. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui se préparent. Je sais qu'il y en a qui trouvent que... Il y en a assez vu. Fait que je me demande, qu'avez-vous tant vu? Là? Parce que, en même temps, je trouve pas qu'il y en a... Moi, je trouve pas qu'il y en a des tonnes.
Il y en a un peu.
Puis ils sont vraiment pas tous pareils, mais...
Mais comme tu dis, fait que c'est une bonne façon maintenant de... Tu peux considérer le théâtre documentaire comme une façon de faire.
En fait, j'espère que le plus grand nombre de créateurs vont juste le considérer puis se poser cette question-là, tu sais.
Mm-hmm.
Tout simplement. Puis si ça fait partie des possibles, je pense qu'il va probablement en avoir un peu plus qu'avant. Mais c'est pas toujours la bonne solution non plus, tu sais.
Non, par moment, ça peut être un peu, comme tu dis, dépendant du contexte que tu vas attaquer. C'est sûr que si tu... Il y a certains enjeux que ça va être un peu indiscret d'aller faire ça comme ça, puis ou encore des classiques. Je sais pas à quel point on peut reprendre un classique puis le mettre en théâtre documentaire.
Non. C'est surtout si tu t'intéresses à un enjeu puis que là, tu pars d'un peu d'une page blanche, là, tu sais. Mais après, il pourrait y avoir il pourrait très bien y avoir des démarches hybrides entre le classique et le documentaire.
À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite de Nous sommes ici ou de juste toi tout seul?
Oui. Bien, de Nous sommes ici, je dirais qu'on a vraiment le goût d'ouvrir notre plateforme, notre équipe. Là. Tu sais, une compagnie de théâtre, c'est un véhicule, là. Puis de l'ouvrir à d'autres créateurs, d'autres créatrices, là, tu sais. Puis on a plein de gens déjà dont on suit les projets, tu sais. Fait que plutôt que de juste s'en tenir à nos idées, puis ou alors même au pire de se forcer à avoir toujours des nouvelles idées, Ben, d'être plus dans... Tu sais, quand on a une bonne idée, on la développe. Oui. Puis entre-temps, ben, on a construit quelque chose depuis 15 ans. Puis il y a du monde super intéressant qu'on peut accélérer un peu leur développement. Fait que... Puis surtout, ça va être le fun pour nous autres aussi de travailler avec eux. Là. Fait que c'est ça qu'on va faire beaucoup dans les prochaines années. Là, fait que attendez-vous à voir... Je vais être très présent, Frédéric Bradette va être très présente, Ariane Sauvé va être très présente, mais vous allez voir d'autres noms qui vont être au texte, qui vont, tu sais, tout ça, là, tu sais, fait qu'on...
Une ouverture.
Ouais, vraiment. Tu sais, on faisait déjà un peu d'accompagnement de la relève, mais là, on va un petit peu plus loin, là, tu sais, comme invité vient, on pourrait t'aider à développer ton projet.
C'est un merveilleux projet.
Ça, ouais, fait que c'est très le fun. Ouais, c'est très stimulant. Wow. Ça, quelque part, ça enlève la pression, puis ça... Puis, tu sais, ça permet aussi de se confronter à d'autres. Tu sais, là, en ce moment, je viens de terminer une mise en scène au conservatoire. Tu sais, j'adore ça, là, tu sais, travailler avec du monde tu sais, plus jeune. Là, tu sais, ça, moi, ça, je trouve ça complètement vivifiant. Là,
oui, ça te nourrit d'une certaine façon. Complètement. Tu pratiques ton art de mise en... Ben, d'être metteur en scène, de diriger un peu les acteurs, mais aussi... de faire évoluer quelque chose à l'intérieur de leur pensée.
Oui, mais ce contact-là, il est vraiment précieux pour moi. Là, t'sais, genre, j'aime ça être fidèle, mais théâtre, c'est des rencontres. Fait que j'aime ça rencontrer du nouveau monde. Puis, faut provoquer les rencontres avec les plus jeunes, les nouveaux venus, sinon ça se fait pas tout seul. Là,
c'est très vrai. Ouais. Oui. Puis, dernière question. Si tu avais un conseil à donner aux futurs artistes, aux auditeurs?
Ben, je repense à ce qu'on disait tantôt là, de, par rapport à présenter le travail. Là, je pense que je serais là-dedans. Là, ouais. De genre, commettez-vous. Là, soyez dans la pratique puis rencontrez le public. Là, comme, soyez avec du monde, soyez en salle de répète, soyez idéalement devant du public le plus vite, le plus souvent possible, je pense, tu sais, pas de rusher des productions, mais de aller cultiver ça, c'est là que ça se passe. Okay. Ça se passe avec du public, ça se passe avec du monde qui regarde, avec du monde qui écoute, puis après ça, ils nous donnent du feedback, mais nous-mêmes, on n'entend déjà plus nos affaires de la même façon. Dès qu'il y a une nouvelle personne dans la salle, on n'entend plus ce qu'on a fait de la même façon. C'est tellement important d'être à l'écoute de ça. Fait qu'il faut le provoquer vite. Mais commettez-vous, tu sais. Attendez pas trop. Faites des projets. Attendez pas d'avoir de l'argent. Attendez pas que ce soit le bon moment. Attendez pas d'avoir l'idée du siècle. Tu sais, comme... Vous avez une idée. Si vous en parlez à deux, trois personnes puis qu'ils trouvent que ça peut valoir la peine, mais essayez-la. N'ayez pas peur de vous planter non plus. On s'en fout. T'sais, vous pouvez vous planter entre vous pouvez planter devant du monde. Vous verrez, là, mais...
Fait qu'aller de l'avant.
Aller de l'avant. Puis, allez-y. Ouais.
Très bon conseil. Donc, je te remercie beaucoup, Alexandre, d'être passé ici. Donc, merci.
Hey, merci à toi. C'était très le fun.
N'oubliez pas d'aller visiter lefutule.ca pour avoir accès aux autres épisodes du balado Levé de rideau gratuitement, ainsi que pour découvrir la future programmation. Cette émission a été réalisée avec l'aide du comité organisateur de la 10e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval, c'est-à-dire Eleonore Goss-Franceschini, Noémie Lavertu, Valentine Sanson et Clara Bruno. François Coulombe-Roson était chargé de la production du balado. Nous tenons aussi à remercier Victoria Pelletier au montage, Adèle Falardeau à l'idéation et Louis-David Gingras pour la musique originale.